Une salle de classe, deux micros et des chaises, un théâtre avec décor, sono, lumière, texte en main, écriture fraîche, texte neuf, jamais lu, entendu, plaisir de la découverte.
Pascal Paradou.
Pour sa 7e édition, le Festival des langues françaises à Rouen propose de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, jeunes ou pas, mais hors des sentiers battus, autrement dit, avec des textes écrits hors de l'hexagone. Il s'agit donc de faire entendre des pièces de théâtre en mode lecture, souvent, ou mise en espace. Bonjour Camille Trouvé.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre lieu, le Théâtre des Deux Rives, qui a un statut de CDN ici à Rouen, c'est-à-dire un centre dramatique national. Avec votre complice Brice Berthoux, vous avez créé la compagnie Les Anges au plafond. Ensemble, donc, vous dirigez ce théâtre et ce festival des langues françaises. Comment vous le concevez ? Est-ce que c'est un laboratoire, une vitrine des écritures francophones ?
C'est un peu tout ça en même temps, puisque effectivement c'est un temps fort, un temps de rencontre entre des auteurs, des autrices qui écrivent en langue française mais depuis une autre partie du monde. Et ils viennent ici rencontrer à la fois des metteurs, metteuses en scène, des acteurs, actrices. Et ce sont des créations sur le vif. Vraiment quelques jours de répétition, un plateau, et puis on entend la lecture, on entend surtout le texte. Et la personne très importante dans cette aventure, c'est Ronan Chesneau, qui est le programmateur du festival depuis le début, depuis sa toute première édition. Et c'est lui qui orchestre un peu ces rencontres.
Alors cette année, une quinzaine de textes, dont celui de Ghed Ben Salem, Enfant, qui est mis en jeu, c'est la formule consacrée ici au Théâtre des Deux Rives pour deux représentations. Bonjour Ghed Ben Salem.
Bonjour.
Ce texte a obtenu, il faut le dire, quand même le prix RFI Théâtre au mois de septembre, et c'est donc la première fois qu'il est entendu sur scène, comme le disait Camille Trouvé, où il a déjà été à Madagascar.
Non, il l'a jamais été, c'est la toute première fois que ce texte est porté en voix, porté en marionnette aussi, parce qu'il y a eu cette rencontre tout à fait surprenante et très enrichissante pour ma part. Donc c'est la première fois, oui.
Ça fait quoi, un auteur, que d'entendre son texte, même si vous êtes en partie sur scène et que vous dites une partie du texte ?
Ça fait toujours quelque chose, et puis c'est le début, j'ai l'impression, d'une naissance. Pour moi, il est à son stade d'adolescence où sa voix mue, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là et qui est très particulier. Et pour un texte qui s'appelle Enfant, je pense qu'il est en train de grandir.
Et il est en train d'être modifié aussi, c'est-à-dire vous pensez le faire évoluer au fur et à mesure ?
Moi, je crois au fait qu'un texte, comme j'ai dit tout à l'heure, vit sa vie et évolue avec les comédiens, les comédiennes qui le rencontrent, avec les metteurs, metteuses en scène qui le rencontrent, avec le public qui le rencontre aussi. Et je crois beaucoup au fait que le texte est une matière qui évolue.
Alors dans ce cas, c'est plus qu'une lecture, parce qu'il y a des lumières, des éléments de décor, on est sur la scène du Théâtre des Deux Rives, il y a du son, il y a un batteur sur scène, il y a aussi des marionnettes, parce que vous êtes des metteurs en scène qui utilisaient beaucoup les marionnettes, Camille Trouvé, mais ce n'est pas non plus tout à fait une mise en scène. Vous dites mise en jeu, ça veut dire quoi ?
C'est une étape du travail pour moi, effectivement, qui pourrait être entre la lecture et la mise en scène. C'est ouvrir une petite fenêtre sur la manière de créer un peu aussi des anges au plafond. C'est-à-dire il y a une rencontre très forte avec ce texte, puis avec la personne aussi de Ghed. Enfin, il y a une rencontre un peu d'amitié, quoi, même si elle est récente. Donc il y a eu une envie de porter dans l'espace ce texte qui nous fascinait et qui gardait son mystère. Et ce qu'on a senti aussi, c'est qu'il y avait une grande place à l'invisible dans le texte, et les marionnettes aiment ce genre de terrain de jeu.
Alors, pour faire le pitch très rapidement, Ghed, c'est l'histoire d'un homme, je parle de la pièce, hein. Mm-hmm. C'est l'histoire d'un homme, un routier, qui traverse l'île à bord de son camion vert à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu.
Oui, son camion vert kaki.
Kaki, c'est très important. Pourquoi ?
Oui, parce que je dépeins un paysage qui est à la fois, comme dit Camille, mystérieux, mais aussi plein de petits indices disséminés tout le long du texte. Et en fait, c'est pour moi une expérience un peu sensorielle, une expérience aussi de l'ordre de l'invisible. Et moi-même, je me suis laissé entraîner dans ce Madagascar abîmé, par ce peuple abîmé, et essayer de rendre hommage aussi à la force des gens qui vivent dans ce pays. Et voilà, tous ces indices au niveau des couleurs, au niveau des émotions, au niveau de ce que portent les personnages, pour moi, c'est important.
Et il boit des THB avant le spectacle, Camille Trouvé. Vous avez précisé que c'est la marque de bière locale.
Oui, et après le spectacle, j'ai rencontré deux spectateurs, spectatrices venant de Madagascar qui m'ont précisé « THB, ça veut dire « Three Horses Beer ».
Et ce n'est pas du tout une marque de stupéfiant, parce pas qu'on pourrait tout. Croire pas à un tout. Truc hyper chimique.
C'est pour ça que j'ai précisé.
Alors, on va bien sûr parler de ce travail, mais dans la diversité des textes que j'ai entendus, il y a aussi celui de Alfred Alexandre, le patron. Bonjour.
Bonjour.
Le patron, ce n'est pas vous, hein ?
Non, pas du tout. Et d'autant plus que le patron a disparu.
Néanmoins, vous êtes présenté comme le patron de la nouvelle génération des auteurs de la créolité, ou du moins de la Martinique. C'est un titre que vous endossez ?
De la post-créolité, et puis ça, c'était il y a 20 ans, quand je faisais partie des émergents.
Et aujourd'hui ?
Ben aujourd'hui, je passe une grande partie de mon existence en tant que conseiller dramaturgique, à accompagner des auteurs, des autrices, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, c'est mon activité principale. Et puis de temps en temps, le conseiller dramaturgique se souvient qu'il est aussi un auteur. Et donc de temps en temps, on se pose et on revient à l'écriture. Et donc c'est le cas avec la compagnie Kassenko, puisque nous sommes en résidence de création à la Chartreuse. Et le CDN nous a invités à l'initiative de Ronan à faire une escale ici, à Rouen.
Et si on doit faire le pitch très rapidement de votre texte, le patron, un homme, une femme, mais on verra jamais le patron. Hein.
La notion, le concept central de ce travail, c'est l'insularité à un triple niveau. Deux personnages insulaires, donc seuls, un couple qui tente de se retrouver. L'insularité au deuxième niveau des sociétés. Que font nos sociétés face aux politiques quand ils deviennent oppressifs? Et puis, à une échelle plus élevée, on pourrait presque dire métaphysique, est-ce que finalement la rencontre est possible ou est-ce que nous sommes d'une certaine façon irréversiblement seuls ?
Des auteurs à découvrir ici à Rouen, mais aussi un spectacle musical à réentendre, puisqu'on l'avait rencontré et entendu au Festival d'Avignon, c'est Joachim Latargé, « C'est mort ou presque » sur des poèmes de Charles Penquin.
C'est à qui de parler là? C'est à qui de prendre la parole? C'est à vous de prendre la parole? C'est vous qui vouliez parler? Avoir une discussion? Vous vouliez avoir une discussion avec la parole? C'est vous qui avez demandé à ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on vous a écouté suffisamment? Est-ce qu'on a entendu suffisamment votre plainte? C'est vous qui étiez dans la plainte? Vous plaignez. Parler est une plainte. Parler, c'est avoir des récriminations contre le monde. Parler, c'est dire qu'on ne sait pas chanter. Est-ce que vous savez chanter? C'est vous qui avez voulu pousser la plainte, la complainte. C'est ça qu'on dit, on dit je pousse ma complainte. C'est-à-dire, ça pense qu'il faut à un moment donné s'arrêter de braire, je braie, j'écrase les mots. Tout ce qu'il y a dans ma tête, je le sors et je le ratatine par terre. C'est à qui de parler là? C'est à qui de prendre la parole? C'est à vous de prendre la parole? C'est vous qui vouliez parler? Avoir une discussion? Vous vouliez avoir une discussion avec la parole? C'est vous qui avez demandé à ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on vous a écouté suffisamment? Est-ce qu'on a entendu suffisamment votre plainte? C'est vous qui étiez dans la plainte? Vous plaignez, parler est une plainte. Parler, c'est avoir des récriminations contre le monde. Parler, c'est dire qu'on sait pas chanter. Est-ce que vous savez chanter? C'est vous qui avez voulu pousser
c'est la plainte, la complainte, c'est ça qu'on dit. Je pousse ma complainte, c'est-à-dire ça pense qu'il faut à un moment donné s'arrêter de traire, traire, je prête, j'écrase les mots, tout ce qu'il y a dans ma tête, je le sors. Et je le ratatine par terre. Je le ratatine par terre.
Joachim Latargé sur RFI et à Rouen pour le Festival des langues françaises, festival où j'ai eu le plaisir d'entendre sur scène pour la première fois le texte lauréat du prix RFI Théâtre 2024, Enfant de Gad Ben Salem. Donc à vous d'avoir la parole, Gad. Que dire de votre texte ? C'est un monologue à plusieurs voix ?
C'est un monologue à plusieurs voix, c'est pas mal comme expression. C'est d'abord la traversée d'un pays. Et en fait, au fur et à mesure qu'on emprunte cette route nationale 44, il y a plusieurs voix qui jaillissent. Et c'est dans l'écriture même que ces voix ont jailli. Donc je les ai acceptées, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à ces complaintes, à ces petites blagues parfois, mais aussi au terrible, parce qu'il y a des choses terribles qui se passent dans chacun de ces personnages.
Et puis le pays est assez terrible, parce que c'est un pays qui vomit ses enfants, c'est dit à deux reprises dans le texte, c'est quand même violent.
Très, mais lors de la première de Enfant, il y a eu des compatriotes, des malgaches dans la salle qui se reconnaissent dans cette espèce de violence que le peuple subit, mais c'est une violence lente, c'est une violence qui se fait de manière plus violente parce qu'elle est dans cette espèce de torpeur quotidienne à Madagascar. Et c'est un pays qui vomit ses enfants. Le pays n'arrive pas à se tenir debout.
Et votre personnage, donc, va traverser ce pays au volant de son camion kaki, j'ai bien entendu. Il dit d'entrée de jeu qu'il est mort de l'intérieur, qu'il hurle de l'intérieur.
Je m'appelle Doud, et ce soir, dans cet épibar, je suis encore en vie. Claudette me le confirme en souriant. Elle dépose deux bouteilles de THB tiède sur le comptoir, une à ma gauche, ouverte, une à ma droite, avec sa capsule. Elles sont généreuses, comme les courbes de Claudette. Claudette est une ombre. Elle défile de gauche à droite, devant mes yeux, vite englués par mes petites brunes. Son pagne vert sale devient blanc, immaculé. Claudette est Mère Teresa et je m'accroche à elle. Je suis dans un naufrage, elle est mon île. J'étouffe dans mon pays intérieur.
Infarctus. Nuit, défibrillateur. Miracle, infarctus. Nuit, défibrillateur. Miracle, infarctus. Nuit, défibrillateur. Miracle, infarctus. Nuit, défibrillateur. Miracle, infarctus. Nuit, défibrillateur.
Enfant, Gad Ben Salem, j'entends presque du slam. C'est logique ?
Oui, je suis slammeur poète, je viens du slam poésie et c'est vraiment une scène d'expérimentation, une scène où j'ai commencé aussi à expérimenter l'écriture et ensuite le fait de dire les textes. C'est une scène de jeunesse à Madagascar, c'est vraiment un mouvement qui a pris de l'ampleur et ça permet en tout cas de dire ce qui est impossible à dire généralement à Madagascar.
Camille Trouvé, comment vous avez abordé cet univers et cette écriture qui, a priori, vous êtes étrangère et vous ne vous en cachez pas, vous n'avez jamais été à Madagascar et ce texte vous a été proposé comme une expérience aussi.
Tout à fait. Bah déjà, il y a une grande émotion à la lecture du texte, à la découverte du prix RFI. Et puis après, très vite, il y a eu la rencontre avec Gad, qui nous a donné quelques clés pour comprendre Madagascar, parce que c'est vrai que moi, je ne m'y suis jamais rendue. Et il y avait aussi une question de légitimité, de prendre la parole à cet endroit-là, de raconter une histoire malgache. Donc la présence de Gad sur scène s'est très vite imposée, à la fois comme un passeur de mots, comme voilà, quelqu'un qui pourrait nous aider à voyager, à faire le voyage ensemble. Et puis aussi la présence de la marionnette, je pense que pour moi c'est une alliée très fidèle, donc avec Brice Berthoux c'est notre outil de travail. Et ça nous permettait, enfin pour moi ça me permettait de mettre de la distance aussi avec la violence que je ressentais dans le texte, puisqu'on a affaire beaucoup à des personnages abîmés qui ont subi des choses très dures. Et la marionnette, parfois, aide à avoir un geste de consolation.
Oui, pas de spectacle des anges au plafond sans marionnettes. C'est votre signature, c'est votre matériau, comme vous le dites. Et vous faites apparaître un certain nombre de personnages dans ce texte sous forme de marionnettes. Il y a une immense poupée gonflable en plastique blanc qui est absolument magnifique. Ou alors, la grand-mère apparaît par fragments comme ça et se compose sur scène sous notre regard. C'est très onirique. C'est-à-dire que vous avez insisté, en effet, moins sur la violence que sur la dimension d'entre-deux, entre les vivants et les morts.
Oui, c'était ma fascination, et celle de Brice aussi sur ce texte, c'est la présence de l'invisible, faire parler les morts, être accompagné par eux et elles au quotidien. Et voilà, j'ai l'impression que c'est dans la culture malgache, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc ces marionnettes qui surgissent un peu ouvrent la porte entre les mondes.
Et vous avez fait aussi le choix de faire porter la parole de Doda, donc le personnage principal, par plusieurs voix. Il n'y a pas d'incarnation unique. Ça peut un peu troubler celui qui a lu la pièce, comme moi par exemple. Pourquoi ce choix-là ?
On avait envie de partager cette parole de l'homme abîmé qui est en quête de son père, qui est en quête de son histoire. On avait envie de la faire traverser cette parole par plusieurs personnes et notamment aussi par les femmes du plateau, pour que ce soit pas uniquement une parole masculine, mais que ça touche à un universel d'une quête qui peut être en chacun d'entre nous.
Alors en effet, Doda, au cours de sa traversée de l'île, va faire des rencontres avec des morts et des vivants, on ne sait jamais trop, et notamment avec Claudette, mais elle me semble très 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 vivante, hein, n'est-ce pas Gad? Oui. C'est la patronne d'un épibar. C'est quoi un épibar? Je me suis posé la question depuis des mois.
Un épibar, c'est un endroit où on retrouve de tout. Ça peut partir du sel, de l'huile, à de la THB. Et c'est un endroit de rencontre entre les petits à qui on a dit d'aller chercher de quoi faire la nourriture du soir. Et aussi les gens qui veulent flâner le soir et qui veulent boire un petit verre.
Donc il y a Claudette, patronne de cet épibar, et puis le personnage va retrouver sa grand-mère, il y a un personnage de pute aveugle, et puis il y a aussi le gardien des rails, car il n'y a plus de train à Madagascar, mais il reste des rails, le gardien des rails qui va lui parler d'un autre personnage, le réparateur de parapluies.
Je te regarde depuis tout à l'heure.
Tu ressembles beaucoup à un type que j'ai croisé plusieurs fois par ici, un réparateur de parapluies. Un jour, il m'avait demandé s'il pouvait utiliser les rails comme enclume. J'ai dit oui, faut bien que ça serve à quelque chose. Il réparait les parapluies pas loin de la gare, là-bas. Mais je te jure, gars, il avait vraiment tes yeux, ton front, ce type dont je te parle. Il est resté assez longtemps ici, puis il est parti dans le nord. Il a suivi la RN44. Jusqu'où, je sais pas. Il a pas pu aller bien loin, il avait au moins l'âge de mon père. Et tu sais quoi, mon père est décédé depuis, alors t'imagines.
Un temps.
Je sais plus pourquoi je te dis tout ça.
Ah ouais, parce que tu lui ressembles, voilà. Et tu parles pas beaucoup, toi, hein. Tout mon contraire, quoi. C'est quoi ça? Donne-moi ça.
Sur la piste du père enfant de Gad Ben Salem, c'est quoi ça? C'est un texte plein de questions, hein, puisque par principe, c'est une quête. Et c'est une quête du père, mais plus largement, peut-être une quête des origines, non?
Oui, c'est une quête de quelque chose. Pour moi, la dimension un peu politique de la chose, c'est cette quête pour tous les Malgaches d'un avenir meilleur. C'est quoi cet avenir meilleur? On se pose la question. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plus le flou qui est devant nous. Et du point de vue plus intime, plus personnel, c'est la quête aussi, je pense, de ceux et celles qui nous ont précédés. Parce qu'à Madagascar, il y a cette dimension très tangible de la mort. On peut étreindre nos morts, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je pense que la question qui se pose, c'est pourquoi et comment on le fait dans les circonstances actuelles du pays.
Que fait-on sans père? Que fait-on sans patron? J'essaye de glisser le plus subtilement possible vers l'autre texte entendu ici au Festival des langues françaises à Rouen, le patron de Alfred Alexandre, dont on a vu 30 minutes seulement. C'est quoi? C'est un extrait, un montage du texte Alfred Alexandre que j'ai pu entendre hier avec de nombreux spectateurs?
On a entendu les 30 premières minutes, en fait, du texte.
Et ça suffit pour comprendre la situation?
Ça suffit du point de vue dramaturgique, 30 minutes, normalement, pour poser une situation, indiquer quels sont les conflits externes, internes, et puis mettre en attente. Et c'est d'autant plus fascinant ici, comme un effet miroir, que le texte repose justement sur une dramaturgie de l'attente, puisque la patronne attend le patron qui a disparu.
Il y a donc ce personnage de femme, la patronne d'un bar dont les affaires ont mal tourné. Hein. Ça a commencé très très bien il y a quelques années, puis visiblement ils se sont endettés. Et puis il y a un homme dont on ne comprend pas exactement le statut, il a été l'employé, il a été aussi un peu le larbin du patron.
Ben, le bar, qui est un lieu à la dérive, est une métaphore de ce couple, le patron et la patronne qui a pris l'eau, de ce couple en devenir que peut former la patronne avec le videur, mais le bar à la dérive qui tangue est aussi une métaphore de nos sociétés actuelles, en quête d'elles-mêmes, en quête de nouvelles significations, et puis c'est aussi peut-être notre situation en tant que sujet humain, toujours... en équilibre ou en déséquilibre d'un côté ou de l'autre de l'existence.
Et on attend le passage d'un cyclone et la nuit est molle, écrivez-vous. On est bien en Martinique.
La nuit est molle, on est en Martinique et puisque le texte s'inscrit dans une trilogie qui traverse la Guyane, la Finlande, le Burkina Faso, la Guadeloupe, la Martinique.
Quelle géographie !
Oui, absolument. Donc cette nuit, elle est la nuit martiniquaise, ça c'est la nuit caribéenne. Le deuxième volet de cette trilogie, c'est la nuit finlandaise, puisqu'on a écrit le volet 2 de la trilogie en Laponie. Et le texte a été créé, la pièce a été créée en Laponie, sera retourne au festival d'Helsinki cet été. Et puis la nuit, le patron, c'est à nouveau la nuit martiniquaise. La nuit est molle, non pas au sens climatique du terme, mais au sens où les personnages sont en attente et dans une attente qui est lente.
Le patron, c'est qui ? Est-ce que le patron, c'est le colon ?
Le patron, c'est la figure de bien connue au théâtre, c'est la figure du maître. Donc nous sommes dans une thématique dramaturgique, maître-valet, et donc le patron est la figure de l'État. Donc quel que soit le lieu où on passe, l'État correspond évidemment au territoire. Donc ça peut être, mais c'est toujours évidemment une figure du pouvoir politique qui peut être impérial, qui peut être colonial, néocolonial ou tout simplement néolibéral.
Donc c'est ouvert et ça ne s'est jamais dit dans le texte. Qui est exactement le patron ?
Non, puisqu'il a disparu. Donc, quel que soit le lieu où on se situe, le patron est une figure de l'État dans sa forme oppressive, autoritaire. Et donc, le patron, quand on voit ce qui se passe ici, dans le lieu où nous nous trouvons en ce moment, le patron, il a une figure néolibérale. Quand on va ailleurs, il a une figure néocoloniale. Quand on va ailleurs, il a une figure impériale. C'est une figure de l'État autoritaire et qui porte atteinte de manière fondamentale à nos libertés. Et le videur est en résistance.
Et dans le bar sous les étoiles, ainsi s'appelait l'établissement du temps de ces beaux jours, aujourd'hui il n'y a plus que reproches, haine et colère.
Les mauvais jours, c'est comme le mauvais temps, je suppose. Il y a des saisons.
Tu viens toujours en biais, n'est-ce pas ? À l'abri, derrière des grandes paroles.
C'est peut-être ma manière à moi de dire ce que je ne sais pas dire.
C'est tellement plus commode, hein ?
Si je savais parler, hop là ! Facile. Dès le premier silence, je serai peut-être là chaque soir, ou je ne serai peut-être pas là, tout seul à tourner en rond dans la nuit, vous ne pensez pas ?
Après tout, les innocences, ça fait partie de ce qu'on perd un jour ou l'autre. Et avec elles, c'est la parole qui fout le camp. Et c'est l'absence qui prend la place.
L'absence ?
L'absence, oui, et tout le vide qu'il y a autour.
Sauf... Je ne sais même plus quand ça a commencé, toute cette absence, comme vous dites, et l'habitude de n'avoir plus que des silences qui pèsent dans ma bouche.
L'absence. Peut-être bien que je suis condamnée à y revenir sans cesse, moi aussi. Peut-être bien que c'est de là seulement qu'il m'est possible de parler sans fin, sans fin. Comme si je me racontais depuis toujours la même histoire perdue d'avance.
Comment être libre une fois le patron parti, c'est donc un duo, un duel, une confrontation entre ces deux personnages, Alfred Alexandre. C'est comme ça que vous l'avez écrit dans la tension, parfois très violente, parfois très poétique aussi entre ces deux, parce que, comme vous le disiez, il y a une possibilité d'histoire d'amour.
Absolument. Donc on a entendu la voix de Serge Abatucci, et d'Evelyne Guillaume. Evelyne Guillaume qui sera la metteuse en scène, mais la pièce sera interprétée par Odile Sankara, qui est en résidence avec nous, mais qui a dû s'absenter quelques jours à Rennes. Donc c'est Evelyne qui a mis ici, qu'on entend ici, qui a mis en lecture. Donc oui, pour répondre de manière très précise à votre question, l'un des enjeux essentiels en dramaturgie, je dis souvent ça aux auteurs et aux autrices avec qui on travaille, c'est qu'on a souvent des thématiques. Par exemple ici, la question de l'État, que font les sociétés une fois que le pouvoir oppressif est parti. Mais quand le public vient au théâtre, il ne vient pas assister à une conférence, il vient vivre une émotion, une expérience quasi sensitive de perception affective. Et donc il faut toujours que la thématique redescende au niveau charnel, au niveau sensuel, au niveau sensible, et donc repartir, comme je dis souvent, du ras de l'humain. Et donc ici on part de cette rencontre impossible, ou possible peut-être, entre deux personnes à la dérive et qui tentent de faire couple.
Gad Ben Salem boit vos paroles.
Oui.
Vous confirmez.
Absolument, c'est très très intéressant et...
Et je pense très important pour un auteur qui n'a peut-être pas l'expérience de Alfred Alexander. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans tout ce que vous racontez, c'est cette création comme ça à géométrie quasiment mondiale, puisque le texte va être créé en Guyane, il sera aussi présent au Festival d'Avignon avec la Finlande, le Burkina Faso, etc. Mais si j'en reste juste à l'outre-mer, est-ce qu'il y a une dynamique propre à l'outre-mer entre la Guyane et la Martinique? Et puis la question vaudra aussi pour vous, Gad Ben Salem, parce que vous n'êtes pas dans les Caraïbes, mais entre la Réunion et Madagascar, il peut y avoir des ponts et il peut y avoir des dynamiques.
Bon, ben, nous, l'outre-mer, on ne sait pas ce que c'est. C'est une catégorie institutionnelle. Nous, on vit aux Amériques. La Guyane, c'est un pays quasi continental. De point de vue institutionnel, c'est le plus grand département français. Donc, c'est vraiment un pays monde. Nous, en Martinique, c'est géographiquement des proportions inverses, puisque c'est un micro-territoire, une île de 30 km de large. Et donc, quand on a cette dimension physiologique, la pensée n'a d'autre horizon que de rechercher les continents, de rechercher les îles, de rechercher le monde. Et c'est la raison pour laquelle la Martinique s'est toujours efforcée de parler à l'échelle du monde, que ce soit avec Fanon, que ce soit avec Césaire, que ce soit avec Glissant. C'est une façon aussi d'échapper à l'exiguïté du lieu.
Gad Ben Salem.
Oui, je sais que Madagascar a une place aussi importante dans la zone océan Indien où on est, et nous essayons en tout cas de porter des histoires qui peuvent être nouvelles ailleurs, mais dans notre pays, c'est les nôtres. Ce sont nos histoires. Et donc, c'est être là, à l'endroit où on est, et dire les choses au moment où on doit les dire, tout simplement.
Camille Trouvé, est-ce que cela ne vous donne pas envie de poursuivre l'aventure avec soit le texte Gad Ben Salem, soit d'autres textes de ce territoire, de ces territoires explorés par le Festival des langues françaises?
Bien sûr, c'est un formidable répertoire. Et puis, évidemment, la rencontre avec le texte enfant a ouvert des horizons, des imaginaires qu'on n'est pas prêt de refermer. Et puis, je trouve qu'il y a aussi une grande question que pose le texte autour de la place des femmes et le sort qui leur est réservé parfois à Madagascar. Ce sont des débats qu'on a eus beaucoup avec Gad pendant la création. Ces hommes qui passent parfois par le corps des femmes pour résoudre leurs problèmes et qui font violence vraiment aux femmes. Et je pense que c'est un endroit à mettre en lumière.
Aussi.
Aussi.
Merci beaucoup à tous les trois. Le Festival des langues françaises, c'est à Rouen jusqu'au 8 mars, avec une nouvelle représentation de Enfants de Gad Ben Salem ce soir. Le texte sera lu ensuite aux Zébrures de printemps à Limoges, puis au Festival d'Avignon, ça sera le 15 juillet dans le cycle de RFI. Merci à tous, de vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto à la prise de son et à la réalisation, et on se retrouve la semaine prochaine.